Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Nous allons faire une première lecture dans l'épître de Jean, un premier texte que vous connaissez, je n'en doute pas, dans la première épître de Jean au chapitre 2, verset 15. Et ensuite, nous lirons un autre passage. Alors, commençons par 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et puis maintenant, nous allons tourner les pages de notre Bible et nous allons aller dans le livre de la Genèse, s'il vous plaît. Livre de la Genèse au chapitre 19. Et nous allons lire ce passage. Chapitre 19, verset 1er. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entrèrent dans la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille ?» Et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Au nom, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré ta grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais si je puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, alors je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite ? Et que mon âme vive. » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorre, du souffle et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre, et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre, pour lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Que Dieu nous bénisse à travers, eh bien, cette lecture assez longue, mais nécessaire, parce que je pense qu'il y a tout un rappel à faire. Lorsque nous considérons ces récits de la Bible, nous avons une instruction, et vous avez vraisemblablement fait l'association entre cette première lecture et la deuxième. Et c'est de ce dont nous allons, eh bien, nous entretenir ce matin. Par rapport à Abraham, que nous connaissons, que nous appelons, que la Bible appelle l'homme de la foi, l'homme spirituel, alors Lot apporte la preuve que sa vie, à défaut d'être régie par l'esprit et par l'obéissance que Dieu demande, l'obéissance de la foi, a été finalement une existence désordonnée, infructueuse et qui a manqué son but. Et je crois qu'il n'y a rien de plus tragique pour un homme ou pour une femme, et je soulignerai pour un chrétien, finalement, eh bien, de rater le but de sa vie, finalement de passer à côté de ce pourquoi Dieu nous a appelés et ce pourquoi il nous a fait. Alors, on peut parler d'un pitoyable échec, d'un triste témoignage, lorsque nous saisissons ces paroles dans le chapitre 19 de notre Bible, du livre de la Genèse, mais l'affaire n'a pas commencé là. Ça, ce n'est que l'aboutissement. Et vous savez, je crois qu'on ne le répétera jamais assez. Au regard de Dieu, ce n'est pas le début d'une chose qui est importante, c'est la fin d'une chose. Ouais. Le commencement d'une chose, eh bien, est important, naturellement. Mais je crois que ce qui est encore plus important, c'est la manière dont nous allons finir. La manière dont nous allons atteindre, eh bien là, le terme de notre vie. On se souvient de Paul qui dit « J'ai combattu et j'ai gardé la foi ». Alors, on va pouvoir mesurer ce matin, eh bien, dans un cas quand même assez triste, ce que peut être un dérapage. Ça glisse en ce moment, mais il n'y a pas besoin d'avoir de neige ou de verglas pour glisser, même dans notre vie spirituelle. On s'en souvient, Abraham disait, et ça c'est écrit dans la Bible, il disait ceci, après une victoire qu'il avait remportée avec Dieu, « Rien pour moi ». Vous vous souvenez de ça, c'est la devise d'Abraham, de l'homme de foi. On voulait lui donner des trésors, on voulait lui donner le butin de la guerre, il a dit « Moi, rien pour moi ». Mais lorsque nous regardons le comportement de Lot, il ne l'a pas dit, mais il l'a vécu. On s'aperçoit que Lot disait ou « Laissez entendre tout pour moi ». Et c'est bien le problème entre ces deux hommes. L'homme que nous pourrions qualifier de spirituel dans la personne d'Abraham et l'homme que l'on peut qualifier de charnel dans la personne de Lot. L'un disait, eh bien Seigneur, écoute, hein, tu me donnes, si tu me donnes, en tous les cas, moi je suis comblé de te connaître. Et l'autre disait, eh bien, tout pour moi. Et ça, c'est bien la différence. Lot était un brave croyant. Mais ce n'est pas d'être un brave croyant qui est important. Même si on met l'adjectif brave. Ce qui est important, c'est autre chose. Et nous apercevons qu'il a rendu nul, même s'il était brave, il a rendu nul son appel par le fait que les objets de son amour ou de ses amours, si l'on peut s'exprimer de cette manière, eh bien s'excluaient absolument l'un et l'autre. Et vous allez le comprendre, c'est qu'on ne peut pas en même temps aimer Dieu et aimer le monde. C'est pas possible. Il avait, nous pourrions dire, comme la chanson, deux amours. Mais on s'aperçoit que le cœur que Dieu nous a fait, eh bien, est fait pour que nous puissions avoir un cœur qui soit le réceptacle véritablement de l'amour de Dieu, qui doit être de plus en plus ouvert à Dieu. Mais quand il y a cette coexistence ou cette cohabitation entre ces deux amours, l'amour de Dieu et l'amour du monde, eh bien, on entend Jésus nous dire, on ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit parce qu'on va aimer l'un et on va haïr l'autre. C'est logique. Ça, c'est le sermon sur la montagne. Lot est le type de ceux qui apportent sur l'autel, vous vous souvenez de Caïn, je le dis au passage, l'offrande d'une obéissance partielle. Ils obéissent, mais ils n'obéissent pas complètement. Ils apportent sur l'autel de Dieu un cœur partagé. Ils veulent bien de Dieu, mais ils veulent du reste. Il apporte finalement le témoignage des œuvres qu'il a vues, ou tout simplement qu'il a remarqué qu'ils ont été pratiqués chez d'autres, qu'il les a imités, par exemple. Mais, en somme, finalement, il n'y a rien de personnel chez Lot. Tout est emprunté à d'autres. Et entre autres, le grand emprunt qu'il a fait, c'est d'avoir vu vivre son oncle Abraham, d'avoir été au bénéfice, et on en reparlera tout à l'heure, de cette grâce de Dieu, de cet homme de foi extraordinaire qu'est Abraham. Alors il avait vu comment il avait vécu. Il avait imité certainement à un certain moment eh bien, l'exemple d'Abraham, mais on s'aperçoit que le cœur de Lot n'est pas entier. Il n'est pas tout à fait tout entier à Dieu. Alors, voulant plaire Lot, il n'a réussi qu'à déplaire. Oui, parce que c'est ça. Quand un cœur est partagé, on veut faire beaucoup de choses, mais quelque part on ne réussit à rien, parce qu'il y a une défectuosité. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs, avec des mots très forts, hein, vous le remarquerez, dans ce que nous dit l'apôtre Jacques au chapitre 4, quand il dit ceci, « Adultère que vous êtes ». Quand il est question d'adultère, c'est pas de prendre une autre femme ou un autre mari, mais c'est un adultère spirituel. Et il dit ceci, « Adultère que vous êtes, infidèle à l'amour de Dieu », ou en d'autres termes, « voleur d'amour », ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié, est en opposition contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est pas difficile à comprendre, c'est Jacques qui nous marque ça, parce que ce sont des comparaisons, ce sont des choses qui s'excluent l'un à l'autre. C'est antinomique, nous pourrions dire. On comprend dès lors que Lot n'a pas connu ni passé par les expériences d'Abraham. Ces expériences pourtant extraordinaires. Dieu parle à Abraham. Dieu lui demande des choses, il lui confie des choses. Ce sont des expériences extraordinaires tout cela. Pour la simple raison que son cœur, ou dirons-nous son état d'âme ou son état d'esprit, ne s'y prêtait pas. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de, surprenant quand il y a des choses qui sont proposées par Dieu à des gens qui n'arrivent pas à capter la pensée de Dieu. Et non pas qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ont une intelligence pour comprendre, mais parce que leur cœur, eh bien là, est tiraillé, il est continuellement en bataille. Alors, c'est très difficile. Et ça, c'est vraiment Lot. C'est vraiment la caractéristique. Et cet esprit, eh bien, il se manifeste, et nous allons le voir dans ce texte, entre autres, par l'indocilité à la parole de Dieu. Il est gouverné par une âme qui est dominée par des désirs et des passions. Alors, c'est ce que nous disions dernièrement avec les jeunes, quand Paul dit à Timothée, « Fuis les passions de la jeunesse. » Alors que la jeunesse et les passions, c'est vrai, c'est le début de la vie, il y a beaucoup de choses à découvrir, en bien, mais malheureusement aussi en mal. Mais quand on arrive à un certain âge de maturité spirituelle et qu'il y a encore là, finalement, une domination de désir et la soif de réaliser ce que l'on veut, c'est problématique. Parce que nous pourrions dire que autant Abraham était un géant, autant Lot était un nain. Excusez-moi l'expression, mais il n'avait pas grandi. Et Dieu nous appelle à grandir spirituellement. Il n'y a rien à faire, frères et sœurs. Il n'y a rien à faire, il faut grandir spirituellement. Parce que si nous ne grandissons pas, automatiquement nous allons retrouver sur le côté à un moment de notre. Et c'est inquiétant pour les parents quand un enfant ne grandit pas. Parce qu'on s'inquiète et on se dit qu'est-ce qu'il a notre enfant? Eh bien moi je crois que Dieu s'inquiète aussi de voir quelquefois des chrétiens dans ses églises ou dans son église qui n'arrivent pas à grandir, qui n'arrive pas à se développer. Et vous connaissez les expressions de l'apôtre Paul quand il est question de maturité spirituelle, quand il est question d'homme fait en Jésus-Christ, de stature parfaite en Christ. Alors on connaît ces termes. Lot a donné la priorité à la dominante de son être, non à la vie de l'esprit, mais à son âme. Et je voudrais quand même relever quelque chose, je l'ai déjà dit et je le redirai, vous l'entendrez encore, parce que ça c'est quelque chose de fondamental et d'essentiel pour le développement de l'Église, c'est qu'il ne faut pas confondre l'esprit et l'âme. Nous avons été créés en Jésus-Christ par une puissance qui est la puissance du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, ce n'est pas être notre âme qui doit nous diriger. Ça doit être la vie de l'esprit qui doit diriger notre esprit, ensuite notre esprit prendre le pas sur notre âme, et ensuite prendre le pas sur notre corps. C'est une pyramide, vous comprenez ? Et on s'aperçoit que, trop souvent, eh bien, on confond dans le peuple de Dieu, on confond l'âme et l'esprit. C'est deux choses différentes. Le domaine de l'esprit, c'est la dimension de Dieu. On l'appelle spirituel. Et la dimension de l'âme, eh bien, c'est tout ce qui peut faire partie de notre personne, de notre personnalité, des sentiments, de notre volonté, de nos désirs, de notre imagination, de toutes sortes de choses semblables. Et je crois qu'on a du mal quand il est question de dire, quand la Bible nous amène, nous suggère ou nous presse de mourir à nous-mêmes, eh bien, c'est mourir à cette dimension-là. Il y en a un qui l'avait compris, c'était Jean-Baptiste. Quand il dira ceci et voyant arriver Jésus, il dira, Seigneur, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et ça passe par cette nécessité absolue, la mort à soi-même. La mort à soi-même. C'était un homme qui a cru trouver, tout en étant un croyant, un compromis entre son engagement de croyant et sa place par rapport au monde. Et ces normes, on va le comprendre, n'étaient pas finalement celles de Dieu totalement, mais ces normes, il s'était normalisé par rapport au monde, l'environnement qui était le sien. Et il prenait un petit peu d'un côté, il prenait un petit peu de l'autre. Vous connaissez aussi l'histoire des Tichus, hein, quand il est assis entre deux chaises, c'est très inconfortable. Il a voulu donner, en quelque sorte, une main, une aide à Dieu dans la réalisation de sa vie. Moi, je trouve dans l'histoire de Lot, eh bien, un correspondant dans la personne de Jacob. Vous savez ce que veut dire Jacob, hein ? L'étymologie de son nom. Eh bien, c'est un petit peu le même personnage. Et pourtant, on ne peut pas dire que Jacob, c'était pas quelqu'un qui avait été choisi par Dieu. C'était quelqu'un qui avait, finalement, le sens du sacré. Mais je peux vous dire que quand il arrangeait les affaires, il les arrangeait à sa façon, hein. Il n'attendait pas que Dieu lui dise, eh bien, maintenant, lève les yeux et regarde, c'est pour toi. Non, il prenait avant que Dieu lui donne le feu vert. Ah, ça lui a valu, quand même, des années de douleur. Il n'y a pas que lui qui a souffert, parce que tous ceux qui étaient autour de lui, ils ont souffert la même chose. Le croyant engagé est soit l'enclume ou le marteau. Je prends cette image. Soit il va laisser son empreinte, et je parlerai même d'un rayonnement, puisque Jésus nous parle que nous sommes la lumière du monde. Il va laisser son empreinte sur son environnement, ou soit son environnement va lui imprimer sa façon de vivre, sa façon d'agir et de penser. Alors il devient à ce moment-là un chrétien, je l'ai dit, charnel, mais j'y ajouterai un mot. Il devient un chrétien conformiste. Et c'est de ce dont nous allons parler ce matin. Qu'est-ce qu'un chrétien conformiste ? C'est toute une histoire. Parce que quand on se reporte à la première lecture que nous avons faite tout à l'heure, « N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. » Eh bien, c'est ça, justement. C'est une forme d'alignement. C'est une forme de mise en conformité et qui fait que, alors que nous devrions être des hommes et des femmes différents, nous prenons la couleur de ce qu'il y a autour de nous. Il y a un petit animal, vous connaissez, là, hein, il est long comme ça, et il prend la couleur là où il se pose. Alors si c'est du vert, c'est du vert, si c'est du je ne sais quoi, quelle couleur. Hein. Et je crois que le chrétien ne doit pas être comme ça. Quant à la conscience de Lot, parce qu'il avait une conscience, hein, il connaissait Dieu, il savait ce que Dieu était capable de faire, parce qu'il avait toute une histoire aussi, également, mais quant à sa conscience, eh bien on devine qu'elle était suffisamment ambiguë, j'utiliserai un autre mot, élastique. Elle était suffisamment ambiguë pour tout inclure. Parce que Lot était ce genre de personnage, ce genre de croyant que tout est bon. Eh oui. Il y a des chrétiens qui ne voient pas, qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Et qui se disent, eh bien, parce que ça a bonne mine, parce que ça apparaît comme ça, eh bien, ça doit être bon. Mais vous savez que c'est terrible ça. Parce qu'on peut se fourvoyer et on peut aller directement dans un mur sans avoir vu le mur. Hein. Et sans brouillard. En plein jour. Et je crois que Lot était cet homme-là. Il voyait que tout était bon. Vous vous souvenez de la première fois quand Abraham, après cette histoire, vous savez, cette querelle entre les bergers et puis de Lot et... Alors, la première chose, parce qu'il est... C'est ce qui nous est montré. Quand Abraham lui dit, mais si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Il commence à regarder. Dieu lui avait pas demandé de lever les yeux. Et il commence à regarder, il dit, oh là là, c'est formidable, la vallée de Sodome et Gomorre. Il avait pas vu que c'était là, justement, où il allait y laisser toute sa famille et qu'il allait y perdre toute sa fortune. Il avait pas vu. Il a vu que c'était bien. Oh, il y avait de l'eau, il y avait des villes, il y avait toutes sortes de choses confortables. C'était mieux peut-être sur la montagne. Mais lui, il avait rien vu. Donc, c'est le tout est bon. Tout simplement. Pourvu que ça me rapporte. Pourvu que j'y trouve de l'intérêt et que j'y trouve des intérêts. Et nous savons que sa conscience était assez ouverte au compromis pour lui valoir la popularité des sodomites. Pour s'introduire au milieu d'eux. Et vous savez, si vous voulez être bien avec tout le monde, vous savez ce qu'il faut faire? Eh bien, conformez-vous. Tout simplement. Vous savez que Jésus a été le plus grand de tous les révolutionnaires, révolutionnaires. Ouais. Et on ne lui a pas fait changer d'avis à Jésus. Alors, il savait bien ce qu'il y avait dans le monde. Il savait bien ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Mais il a continué sa mission parce qu'il avait une mission à remplir. Et je dis que si vous voulez pas avoir de problème, eh bien, vous vous conformez à votre environnement et vous n'aurez pas de problème. On viendra vous faire des courbettes, on viendra vous dire, mais vous êtes le plus beau, le plus grand et tout ce que vous voudrez. Là, vous n'aurez pas de problème. Vous en aurez peut-être après, mais dans un premier temps. Et lui, Lot, avait réussi à captiver, eh bien, finalement, ses nouveaux amis qui étaient les sodomites. Je vous dis pas, vous savez ce que ça veut dire, sodomite? Quand on voit un peu. Alors, il était bien. Et on va voir comment il était bien. Alors, il y a eu des conséquences à tout cela. Parce qu'il est accueilli à bras ouverts. Il descendait de la montagne avec ses richesses. Vous savez, si vous avez de l'argent, pas de problème non plus. Il est descendu avec ses troupeaux. On l'a accueilli. On a dit, voilà, c'est un enrichissement pour notre ville. On lui a même donné une place, puisqu'on va le voir tout à l'heure. Il était assis à la porte de la ville. Et dans l'Antiquité, quelqu'un qui était assis à la porte de la ville, ça voulait dire qu'il était dans la municipalité. C'est-à-dire que ça voulait dire qu'il était là comme juge, en quelque sorte, comme magistrat. Alors était-il conseiller municipal ou autre chose? Je ne sais pas à quelle affaire de la ville, mais toujours est-il qu'être à la porte de la ville, ça signifiait une position importante. Et à ce moment-là, eh bien, il s'est dit, bien voilà, c'est formidable, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Je vais pouvoir rendre témoignage à ces païens. On verra ça tout à l'heure. La conséquence, c'est qu'à force de vouloir tout inclure, on finit par se faire exclure. Et ça, il ne l'avait pas prévu. Il s'était dit, bien moi, je rentre à Sodome et Gomorre, on m'accueille, mais à vouloir forcer les choses. Eh bien, un moment ou un autre, eh bien, c'est l'histoire que nous avons lue tout à l'heure. Et on se fait non seulement exclure par Dieu, mais on se fait exclure par les hommes. Parce que vous avez vu les propos que les sodomites lui ont tenus. Il veut faire le juge, mais qu'est-ce qu'il vient faire cet étranger au milieu de nous? Vous savez, soit on est avec, ou on est en dehors. Faut prendre une position, c'est pas possible. Autrement, c'est contre nature, en quelque sorte. Alors, simplement pour l'histoire, pour la rappeler très, très rapidement, nous voyons que Lot quitte Charan en Chaldée et il va suivre pendant des années, il va vivre, je dirais, dans le sillage d'Abraham, il va avoir des formidables bénédictions. Il va y avoir également un enrichissement considérable, à tel point qu'ils ne vont pas pouvoir demeurer l'oncle et le neveu ensemble. Ils vont partager aussi les erreurs. Et les erreurs, c'était pas Lot qui l'avait fait dans cette situation, c'était Abraham. Parce qu'il y a eu une famine. Et c'était lui le patriarche, il s'est dit, mais nous allons mourir si nous restons dans ce pays. Pourtant, c'était là où Dieu lui avait dit, tu resteras là. Et il est parti un peu plus loin. Par manque de foi, il est descendu en Égypte. Ce qui n'a rien arrangé. Parce que ça s'est terminé par un beau fiasco. Et il a dû repartir avec Saraï, avec ses serviteurs, et puis Lot aussi. Mais vous savez, il y a des gens qui se relèveront toujours de mauvaises aventures, et il y en a d'autres qui se relèveront mais qui emmèneront toujours quelque chose avec eux, des mauvaises aventures, qui ne les quittera jamais. C'est parce que Lot a été en Égypte et il a vu des mauvaises choses en Égypte. Et finalement, même s'il a quitté l'Égypte, parce qu'il était obligé de suivre son nom parce qu'ils étaient chassés, dans son cœur il avait vu des choses et il les a emmenées avec lui. Et ça, c'était terrible aussi. Ça s'est retrouvé plus tard. Alors ils sont revenus en Canaan. Et puis là, il y a un choix qui s'impose parce qu'ils sont devenus tellement riches qu'ils ne peuvent plus demeurer dans la même contrée. Et nous voyons que Lot, à ce moment-là, va choisir mal. Abraham lui dit, tu vas à droite, tu vas à gauche, ceci et cela. Lui, il se précipite, il choisit ce qu'il y a de meilleur, apparemment. Il choisit mal. Et il va entendre, il va voir une des premières conséquences et un des premiers avertissements de la part de Dieu. Tout de suite après qu'il s'installe à Sodome et Gomorre, il y a une guerre. Je passe très vite sur l'histoire, là, je lis en diagonale. Il est fait prisonnier, par les nations qui font la guerre à Sodome et Gomorre. Vous connaissez l'histoire? Et puis il est délivré par Abraham. Et Dieu lui fait grâce, il récupère tous ses biens. C'est formidable, hein? Tous ses biens, il les récupère. On pourrait dire, si on raisonne un petit peu comme ça, il a de la chance, Lot, hein? Mais apparemment, il comprend pas. Et puis, il est sauvé également de d'autres conflits par Abraham. Quand les nations se mettent contre Sodome et Gomorre, où il se trouve au milieu. Il est sauvé aussi par l'intercession de d'Abraham, vous savez, quand cette histoire de 50 justes, et puis on descend à 10, je crois. Il est sauvé par les anges à la fin, dans notre texte que nous avons lu. C'est les anges qui viennent le sauver. Eh bien, je peux vous dire, avoir été sauvé une fois, deux fois, trois fois, avoir reçu cette grâce et ces grâces qui se multiplient sur sa vie, on s'aperçoit que finalement, malgré ça, il n'en fait rien. Et ça, c'est terrible. Je dis que quand un chrétien est averti et qu'il continue à faire ce qu'il a été averti, eh bien moi je dis c'est dramatique. C'est dramatique pour lui d'abord, et puis je pense que c'est quand même un triste témoignage. Vous savez, on l'a vu, hein, et quelquefois certains en pleurent encore, d'avoir dit des choses à des gens. Non pas pour les juger, non pas pour les condamner, mais pour les avertir. Et de dire, oh non, mais j'y arriverai bien tout seul, et puis de toute façon il n'y a pas de danger, il n'y a aucun problème. Et ça, on l'a entendu. Et nous voyons que, malgré qu'il est sauvé par trois fois, il revient à Sodome et Gomorre. Alors moi, je ne sais pas, mais quand déjà vous avez eu la tête à moitié coupée, et que vous dites, eh bien, j'y retourne parce que j'ai envie de me faire couper l'autre moitié, excusez-moi, là, il y a quand même un problème de raisonnement. Il y a un problème de connexion au niveau de l'ordinateur central, de l'unité centrale. Parce que trois fois, il est sauvé. Et trois fois, il recommence. L'explication, c'est que Lot est manifestement attiré par l'esprit qui règne à Sodome. Et il est scotché, il est collé. Il se dit, ben voilà, ben c'est ça, j'ai choisi, et j'ai certainement encore bien choisi, et ça s'arrangera. Il peut pas arriver à se décoller de l'état d'esprit qui règne dans cette ville. Parce que c'est un monde dont il s'est jamais débarrassé depuis qu'il est remonté d'Égypte. Il avait ça dans le cœur, et quand on a une chose dans le cœur et que on n'a pas laissé Dieu nous purger, eh bien, on va l'avoir encore très longtemps. On l'aura peut-être jusqu'à la fin. Alors, nous voyons Lot qui retourne à Sodome et à Gomorre malgré les leçons que Dieu vient de lui donner. Il va même s'installer, et je dis bien qu'il va même se réinstaller complaisamment dans les villes de la plaine. Il y a un mot qui décrit l'attitude de Lot, ce que le texte de Jean nous a dit tout à l'heure, quand il est dit ceci, n'aimait pas le monde, mais lui, il aimait. Il aimait. Et il y a des choses que l'on aime. Il y a des choses que l'on aime et qu'on n'est pas prêt à, forcément, eh bien, à abandonner. On les aime. Puis vous savez, l'amour, hein, c'est fort. L'amour, c'est pas loin de la haine non plus, hein. Et il aimait, tout simplement. Il aimait Sodome et Gomorre. Il aimait le monde, on peut le dire, en reprenant les termes exprimés par l'apôtre Jean. Et l'on ne peut aimer le monde sans être contraint de nous y ajuster, de nous aligner et de nous conformer. Si on aime une chose, à un moment donné, la chose va devenir tellement importante pour nous, c'est que nous allons prendre la couleur de la chose. Nous allons prendre la mentalité de la chose. Enfin, quand je parle de chose, vous y mettez tout ce que vous voudrez, hein. Mais d'aimer quelque chose qui quelque part, eh bien, est contre la volonté de Dieu. Alors, à un moment donné, eh bien, on va finir par parler comme, on va finir par s'habiller comme, on va finir par vivre comme, parce que ça nous imprègne au fur et à mesure. Vous savez que nos affections sont est intimement lié à notre état d'esprit et vice-versa. Et ce n'est pas pour rien que dans la parole de Dieu, il nous est dit ceci, « Garde ton cœur plus que de toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et moi, je paraphrase, je change les choses, si vous me permettez, parce qu'aussi de lui viennent les sources de la mort. En tous les cas, on s'aperçoit que ce n'était pas l'esprit qui régnait chez Lot. C'était son âme, avec ses désirs, avec ses aspirations. Alors, on va parler du conformisme, si vous voulez, quelques instants. Et je dis que le conformisme, c'est un grave danger pour les chrétiens que nous sommes. C'est une des causes de la dégénérescence du christianisme. L'Église historique n'a-t-elle pas servi à cristalliser pendant des siècles et des siècles, à vanter et même à bénir les conceptions modernes, alors que Jésus nous a appelés à nous séparer? Non pas d'une manière absolue, parce que nous avons une vie sociale, une vie humaine. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et je crois que quand Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde », c'est pour que nous ayons cette faculté, et nous l'avons cette faculté d'éclairer le monde, et non pas que le monde nous éclaire. Nous savons quelque chose de plus. Et on s'aperçoit que le christianisme, dans toute son histoire, a été quand même dans une grande partie une véritable faillite. Ce qui fait dire aujourd'hui aux inconvertis comme aux sodomites hier, « Oh ben, faut pas me parler de votre Dieu, parce que quand on voit comment les chrétiens vivent, comment ils parlent et comment ils se comportent, alors ne me parlez pas de Dieu, on sait ce que ça veut dire. » Mais ça, c'était pas le but que Jésus s'était assigné. C'est que nous soyons le sel et la lumière du monde. Et aujourd'hui, on entend les gens nous dire, « Eh bien, moi, vous savez, votre vie, vous pouvez la garder, hein, parce que moi, ça m'intéresse pas. » Avec tout ce qu'on a entendu dire, tout ce qui se passe encore dans le monde, même encore aujourd'hui, ne me parlez pas du christianisme. Et c'est vrai qu'on a du mal à rendre témoignage. Mais pourquoi? Parce que ça, c'est une affaire aussi de témoignage. C'est une affaire, finalement, de lumière. Et je crois que la lampe de Lot était pas loin de s'éteindre. Quand on regarde à travers les textes de l'Évangile, on s'aperçoit qu'il ne nous est pas dit de nous conformer, mais il y a un autre verbe qui est pris, d'être transformé. C'est ça la différence. Il ne nous est pas demandé de nous conformer, mais il nous est dit d'être transformé dans le renouvellement de notre intelligence et de discerner ce qui est bien, ce qui est bon et ce qui est parfait. C'est ça la grande différence. Et un homme spirituel saura faire, finalement, ces choses. Et s'il y a une prière que nous avons besoin de faire monter à Dieu, c'est de dire, Seigneur, donne-moi d'être transformé. Et cette transformation, ce n'est pas un coup de baguette magique. Le jour de notre baptême, lorsque nous nous sommes engagés, c'est pas ça. Loin s'en faut. C'est une transformation quotidienne, et souvent avec des combats et des luttes, avec des avancées et quelquefois des reculades, où Dieu nous dit, maintenant, tu vas reprendre le chemin, tu vas recommencer au début parce que tu as mal appris ta leçon. C'est ça, toute notre vie, elle sera comme ça, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas nous décourager, mais il faut toujours nous mobiliser avec une volonté de faire mieux. Et de dire à Dieu, Seigneur, tu sais, j'ai encore des problèmes. J'ai encore toutes sortes de choses dans ma vie. Mais Seigneur, je sais que tu le sais, mais je sais que tu me tends la main. N'a-t-on pas entendu un don spirituel d'encouragement ce matin? Alors, à ce moment-là, nous devons nous laisser porter et d'ouvrir la porte du Saint-Esprit à Dieu. La porte au Saint-Esprit est de dire, mais Seigneur, transforme-moi. Le renouvellement de notre intelligence. Ce n'est pas l'intelligence humaine, là, à ce moment-là. Ou si c'est l'intelligence humaine, en tous les cas, elle doit être reprise en sous-main par le Saint-Esprit pour être régénérée et sanctifiée. Discerner ce qui est bien, ce qui est mal, et surtout, quelle est la volonté de Dieu, nous dit Paul dans Romains chapitre 12, le texte que je viens de vous citer il y a un instant. Transformer, ça veut dire changer de nature, de forme de vie, de caractère. On pourrait peut-être dire conversion, si vous voulez. Et puis, renouveler, c'est un remplacement d'une chose et d'un état usé ou usagé par quelque chose de neuf. Et Dieu veut nous conduire dans cela. C'est ce que Dieu veut faire avec notre esprit et avec notre intelligence. Et c'est un appel aussi, puisqu'il est question de conformisme, à sortir du statu quo, des pressions de masse, parce qu'on en a dans notre monde aujourd'hui, des coutumes liées au temps, des courants de pensée, et c'est un effort de dégagement permanent, et c'est un appel à notre volonté. Quand Jésus dit au paralytique, celui qui avait 38 ans d'infirmité, vous souvenez, dans l'évangile de Jean au chapitre 4, me semble-t-il, il lui dit ceci, « Veux-tu être guéri ?» C'est pas une question anodine, c'est pas pour dire on va meubler et puis on va dire un mot comme ça. Non, pour faire bien, pas du tout. Parce qu'il voit que cet homme est ankylosé, il est paralysé non pas seulement dans ses jambes, mais il est paralysé aussi dans sa volonté, dans le vouloir d'être guéri. Et c'est terrible, frères et sœurs, de constater encore aujourd'hui, même au milieu de nous, qu'il y a des frères et des sœurs qui sont tellement engoncés dans une volonté paralysée qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils sont là amorphes. Ils sont là, ils savent que Dieu est là, ils savent que Dieu veut les bénir, que Dieu peut faire des choses extraordinaires, qu'il peut leur donner des choses merveilleuses qu'ils attendent et auxquelles, après lesquelles ils pleurent, mais ils sont ankylosés. Et quand il est question justement de faire un effort de dégagement et un effort, un appel à notre volonté, Dieu s'adresse à nous encore aujourd'hui, est-ce que tu veux ? Il ne pourra rien faire le Seigneur, même s'il est tout puissant, si vous ne voulez pas. Moi je le dis. Parce que la baguette magique et le claquement de doigts, c'est pas biblique. Il faut que nous engagions notre volonté, et il y a des frères et des sœurs qui, dans un domaine ou dans un autre, domaine malheureux ou domaine d'autre chose, eh bien sont paralysés dans leur volonté. Et Lot était un homme qui était paralysé, il s'enfonçait de plus en plus dans le péché, mais il ne s'en apercevait pas, et il n'avait pas forcément envie de s'en sortir. Quand un homme tombe dans une fondrière et qu'il ne se débat pas ou qu'il ne tente rien pour en sortir, il finira par être complètement absorbé. Et ça, c'est le problème de Lot. Le croyant spirituel est nécessairement un non-conformiste. Je reviens sur ma pensée première. Il a découvert d'autres principes et d'autres valeurs de vivre et de diriger sa vie. Au lieu de répudier, Lot a épousé Sodome et Gomorre. Alors, j'espère que vous avez bien compris dans la Bible. Sodome et Gomorre, c'est pas un couple, hein. Parce que quelquefois, à l'école du dimanche, on a posé la question à des enfants en disant, qui c'est Sodome et Gomorre? C'est un monsieur, une dame. Non, c'est pas ça. Alors, c'est deux villes, hein. Et on va voir dans quelles conditions elles étaient, ces villes. Alors, au lieu de répudier, lui, il a épousé, finalement, l'esprit de Sodome et Gomorre. Et, nous n'aborderons pas ce matin parce que ça serait trop long, mais la vie dépravée des sodomites, et je peux dire que le monde d'aujourd'hui ne fait pas mieux, mais peut-être faire pire, quand on voit un petit peu ce qui se passe autour de nous. Nous allons maintenant très rapidement observer Lot et les conséquences de son approbation de la vie dans laquelle il s'y est mis lui-même. Au verset premier, il dit ceci, « Lot était assis à la porte de la ville. » Je l'ai déjà dit, c'était un siège de juge. Donc il était devenu une notoriété. Quelqu'un qui était considéré. Alors, je dis que pour un croyant, tel que lui, quel embarras de prononcer la justice dans un tel endroit. Il faut vraiment être envoyé par le Seigneur. Hein. Ça devait être difficile. Mais il était content parce qu'il avait sa place. Et il y a des gens qui, quelque part, parce qu'ils ont une place, ils sont contents, même au mépris de la justice et de la vérité. Et Dieu nous demande de mettre en avant l'honneur, la justice et la vérité. Et Lot lui avait fait l'inverse. Il se disait, moi, c'est quand même mieux que sur la montagne avec mon oncle. Là-bas, il n'y a pas de place d'abord. Il fait froid sur la montagne. Il y a des hivers rigoureux, il neige. Vous pouvez dire ça, comme aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'il était content parce qu'on lui avait fait une place à la porte de la ville. Et il se confortait avec ça. Mais par contre, en ce qui concerne lui, le croyant qui connaissait la justice, la vérité et l'honneur, il n'en faisait rien dans cette situation. Et pourtant, Lot avait un message à donner aux sodomites. Comme plus tard, Jonas en aura un à Ninive. Mais ça s'est passé autrement pour Jonas. Mais en ce qui concerne Lot, il avait un message. Mais encore une autre question, mais comment faire passer une cause aussi impopulaire que l'appel à la repentance? Et vous en savez quelque chose, frères et sœurs, lorsque vous parlez autour de vous et que vous commencez à aborder le problème du péché. Vous savez que les gens, ils vous sautent pas au cou, hein. Et c'était le message qu'il avait reçu. Et comment pouvoir concilier avoir un message chrétien et conserver ses affaires, conserver sa position et son prestige? Moi, j'ai connu des chrétiens, d'authentiques chrétiens, qui ont fait le choix de perdre leur emploi parce qu'on les entraînait dans des choses iniques sur le plan d'une alliance, par exemple. D'une alliance ou d'une coopération. C'est arrivé, ça. Et ils ont dit, ben voilà, je préfère quitter ma place que de faire et de me soumettre à des magouilles, à toutes sortes de choses que le monde a l'habitude de faire. Vous savez, faut pas vous inquiéter, si ça vous arrive un jour, hein, le Seigneur va pas vous laisser tomber. Hein. Il vous redonnera 10 fois mieux après. Il avait su s'adapter, et le mot adaptation est un mot moderne, c'est quelque chose de moderne. On nous dit aujourd'hui, si vous voulez avoir une place au soleil, il faut vous adapter. Et lui avait su s'adapter. Toutefois, il y a des choses avec lesquelles le vrai croyant ne pourra s'adapter. tels que le mensonge, l'injustice, et puis les tortuosités, les coups de, les porte-manteaux dans le dos. C'est que vous connaissez un petit peu. Hein? C'est ça, hein, ce que l'on dit. Hein? Nous sommes pas appelés à être des hommes de respectabilité sociale, bien que nous ayons, en effet, un engagement dans la vie sociale, d'être des hommes d'honneur, mais nous sommes appelés à être des hommes de conviction, et nos convictions et nos prises de position peuvent nous valoir la désapprobation des hommes. Et c'est parce que nous allons prendre des positions quelquefois qui ne vont pas plaire, eh bien on va être critiqué, on va être quelquefois montré du doigt, on va être ridiculisé, on va être moqué. Mais ça n'a pas d'importance. N'ayez pas honte de la foi qui est la vôtre. N'ayez pas honte de la foi qui est en Jésus-Christ et des principes que Jésus-Christ nous a donnés. Vous ne perdrez jamais rien. Et le contraire est vrai. Jésus nous dit dans le sermon sur la montagne, mais quand on commencera à dire du bien de vous, quand on commencera à vous passer la main dans le dos, alors à ce moment-là, méfiez-vous, parce que vous êtes en grand danger. Alors n'ayez pas peur, et n'ayons pas peur. Quelquefois, les pasteurs montent au créneau. C'est arrivé plusieurs fois de monter au front, vous savez ce que ça veut dire. Pas à Verdun, mais là où je me trouvais. Et de dire des choses qui étaient des choses que Dieu me demandait de dire. Je crois que notre frère sait ce qu'il en est. Vous savez, c'est pas facile. Parce que c'est vrai qu'on peut faire de la peine. Mais quelquefois, le chirurgien, quand pour sauver une personne, lui donner la vie, il est obligé quelquefois d'amputer. Tout dépend comment c'est fait. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est quelquefois, il faut dire des choses. Et des choses qui sont désagréables. Alors à ce moment-là, on n'est plus amis, on n'est plus copains. Mais c'est pas ça. Dans la responsabilité qui est la nôtre, c'est que nous avons besoin de faire ce que Dieu nous demande de faire. Parce que les comptes, c'est pas vous qui les aurez, c'est moi. Ou c'est le serviteur de Dieu. Ça, c'est important de le considérer. Et on ne peut pas dire oui à tout le monde. Quand les choses doivent être faites, eh bien, elles sont faites, mais on ne peut pas dire oui à tout le monde. Alors, conformisme, Lot l'était, car il préférait la sécurité anesthésiante de la ville à celle de la vie aventureuse et rude de celle d'Abraham qui était sur la montagne. Alors, sécurité, confort, divertissement, tout pour s'endormir à Sodome et Gomorre. Bien qu'il devait y avoir du bruit la nuit. Hein, mais toujours est-il, il y avait tout pour s'endormir spirituellement. Parce que c'était un superficiel, Lot, un superficiel. Et vous savez, la superficialité, ça nous amène à une mollesse morale, à du relâchement, où il n'y a plus de résistance. Toutefois, il préférait certainement lutter contre sa conscience et esquiver le vrai combat de la foi que finalement de devoir transiger et de dire « maintenant je prends position ». Mais en fait, de conscience, on s'aperçoit que la Bible nous en parle, non pas dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, quand il nous est parlé de Lot, et il nous est dit qu'il avait des tourments aussi, dans 2 Pierre chapitre 2, il nous est dit que Lot était profondément attristé de la conduite de ses hommes, sans frein, dans leur dissolution, il tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait des œuvres, de leurs œuvres criminelles, mais il y restait quand même. Il y restait quand même, il savait que c'était mauvais. Il savait que c'était pas bon. Il savait que c'était véritablement un poison dangereux, mais il y restait quand même. Alors il préférait encore négocier avec sa conscience en disant « Tu fermes tes yeux, tu fermes tes oreilles. T'es bien là parce que ce sont tes affaires, t'es confortable. C'est bien, t'as une place à la porte de la ville. » C'est terrible, hein ? Mais il ne pouvait pas bouger, il était inerte, tout simplement. Et parfois ça arrive aux enfants de Dieu d'être sans force, d'être neutralisé, sans vigueur à cause d'un partage intérieur. Parce qu'ils ne se sont jamais livrés intérieurement au Seigneur, tout simplement. Très rapidement, nous allons voir maintenant jusqu'où vont les concessions de Lot. Accepter l'inacceptable. Et vous allez voir, c'est choquant. J'espère que vous êtes bien assis. Vous l'avez lu le texte avec moi, mais il y a des choses qui sont assez quand même difficiles à entendre. Accepter l'inacceptable. Il reçoit les anges de Dieu. En cela, il imite Abraham. Donc il a bien gardé certainement de bons côtés aussi. Alors il reçoit des hommes qui sont des anges, en réalité. Toute la population de Sodome, apprenant qu'il y a des étrangers qui sont arrivés, viennent frapper à la porte de Lot. Et ils réclament qu'il leur livre des étrangers pour les violenter. Parce que quand ils disent « nous voulons faire les sortir pour que nous les connaissions », c'est un terme qui est spécifique à une relation sexuelle. Donc ils voulaient les violer. C'est ce que, en tous les cas, elle est violentée. Alors Lot, sa conscience, il ne sait plus où il en est rendu avec tout ça. Alors il s'interpose, et c'est alors que pour avoir la paix, et vous savez, la paix, elle ne se fait pas à n'importe quel prix, frères et sœurs. Il y a des gens qui veulent la paix, mais qui sont prêts à brader n'importe quoi. Eh bien, nous, chrétiens, la paix, c'est quelque chose d'inestimable, et elle n'est pas à vendre. Alors, pour avoir la paix, il propose un odieux et immoral marché. Il a deux filles qui sont vierges. Et alors, à ce moment-là, il passe le nez à travers la porte. Il leur dit, dites donc, vous arrêtez. Hein, on fait une transaction. Moi, je vous livre mes deux filles. Non, mais vous supportez ça? Je vous livre mes deux filles, mais vous laissez ces hommes tranquilles. C'est affreux. Où il en est rendu, Lot? Il est plus au rez-de-chaussée. Il est au troisième sous-sol. Il veut livrer, il est prêt à livrer ses filles à la populace. Quel obscurcissement moral! Alors il va dire ceci. Il va d'abord employer un terme qui n'est pas de mise. Il va dire mes frères. Mais est-ce qu'on peut être frère avec des... J'en dis pas plus, après vous mettez ce que vous voulez. Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant des années pour les empêcher de faire le mal alors qu'il avait une place prépondérante dans la ville? C'est à ce moment-là qu'il se réveille. Ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors. Seigneur, je me bouche les oreilles, je ferme les yeux, hein, afin que vous leur fassiez ce que vous voudrez. Mais c'est horrible, une chose pareille. Ce qui vous plaira. On ne peut se conformer à la mentalité du monde sans être contaminé et perdre son sens moral. Et tout ce que cela implique à titre d'exemple et d'éducation pour les enfants. Nous sommes des adultes. C'est une chose. Mais écoutez, il y en a d'autres derrière nous. Hein. Il y en a d'autres qui entendent, ils ont des petits yeux, ils ont des petites oreilles, mais ils sont là quand même. Hein. Imaginez-vous un peu le travail. Et ça s'est terminé, cette sordide histoire, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, par un inceste. Parce que vous tournez, vous arrivez au chapitre 20, et bien vous lirez ce qui s'est passé. Et les enfants qui sont nés de l'union du père, est-ce que je dois continuer, parce que c'est terrible, hein, et des filles, ça va donner les ennemis d'Israël plus tard. Les Moabites et les Ammonites, hein, je crois, il me semble. Voilà les conséquences. Pour le monde, les frontières de la moralité vont jusqu'au mal. Que le monde rebaptise bien et qu'il considère comme normal. Je termine. Enfin, le conformisme de Lot l'a amené à perdre toute crédibilité en tentant de calmer la folie des sodomites. Il les appelle ou il les rappelle à la raison quand il leur dit ceci. « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. » Quelle valeur peut avoir la voix d'un homme qui aujourd'hui s'élève en moraliste sur des choses qu'il a acceptées tacitement depuis longtemps? C'est pas possible, ça. C'est inconcevable. Et qu'est-ce qu'ils vont lui répondre, les sodomites? Ils vont pas lui faire de cadeau. Ils vont lui dire, mais celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Il veut nous donner des leçons de moralité. Quel triste témoignage. Enfin, je dirais pour nous, pour notre temps chrétien. Ou quel triste témoignage de croyant. C'est triste. Un croyant conséquent et sérieux saura toujours attirer le respect, mais les Lots se désavoueront et passeront pour des plaisantins. Verset 14. Lot parla à ses gendres. Il leur dit, levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, parce que lui, il y croit au jugement. Personne n'y croit, lui, il y croit encore. Hein. Car l'Éternel va détruire la ville, et cette petite phrase sibylline qui fait suite, mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Eh bien, moi, je dis quelquefois, il peut y avoir aussi des chrétiens et des chrétiennes qui sont des plaisantins. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Parce que c'est ça ce que ça amène. La conclusion, nous la trouvons au verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Merci Seigneur. Parce que pourtant il était là jusqu'au cou et tout dépassé, hein, il n'y a plus rien qui dépassait, et pourtant Dieu veut encore le tirer de cette situation. Il veut le tirer. Vous vous souvenez de la prière d'Abraham, hein? Et il prie, y a-t-il encore un juste? Alors je ne sais pas si on pouvait encore le qualifier de juste là. Mais pourtant Dieu veut l'épargner. Qu'est-ce que Dieu est plein de miséricorde, hein. Et vous savez, on aura peut-être des surprises de voir des gens qui ont été complètement plongés dans le péché, même dans cette église, et revenir au milieu de nous. Ça s'est vu, hein. Alors mes frères et mes sœurs, il va falloir beaucoup de miséricorde, hein, parce que si c'est Dieu qui les ramène, c'est pas moi qui vais aller les chercher, je peux vous le dire. Mais si c'est Dieu qui les ramène, parce que quand Dieu pardonne, il pardonne. Et vous savez, là où la grâce a abondé, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là, il va falloir que... Ça va être dur, hein. Ça va peut-être être dur, je ne sais pas, mais toujours est-il que ça va peut-être pas forcément être facile. Parce que pour aller chercher un Lot là où il est rendu, eh bien, Dieu avait véritablement, comme on le dit, il est large, son amour est grand, il est haut, il est dans tous les sens, hein. Comme il tardait, nous dit le texte, il tardait, vous savez pourquoi il tardait Lot? Parce que c'est difficile de rompre avec les passions de notre cœur. Et Dieu est rempli de miséricorde et il use de patience envers nous parce que on n'a pas forcément envie de transiger quelquefois, on n'a pas envie de se laisser faire. Alors Dieu nous dit, mais c'est mal, c'est mauvais. Et on dit, bon, Seigneur, encore un petit peu, tu sais, je suis pas trop pressé. Et Dieu, eh bien, quelquefois nous attend parce qu'il veut vraiment nous sauver. C'est ce qu'on a entendu. Que de temps pour se désintoxiquer et parfois le traitement passe par un dénuement complet. C'est ce qui va arriver à Lot. Il va perdre toutes les bénédictions. Mais plus grave encore, la grâce, puisque Dieu le prévient, et il y a encore ceci, il y a encore cela, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la grâce se faisant insuffisante, c'est le jugement qui va avoir le dernier mot. Et je m'explique sur le mot jugement. Quand il est question de jugement pour les enfants de Dieu, il n'est pas question de perdition éternelle. À moins que véritablement, à main levée, nous péchions contre le Saint-Esprit. Mais Lot, c'est un faible, on l'a bien compris. Il est faible, il ne peut pas arriver à avoir une vie, comme c'est un bébé, c'est un nain, spirituellement, eh bien, il ne peut pas s'en sortir. Il est trop petit. Alors le jugement va avoir le dernier mot. L'ange lui dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi de peur que tu ne périsses. Et quand on n'a jamais appris à obéir, parce que ça arrive, hein, ça. Alors à ce moment-là, la femme de Lot a regardé en arrière et elle s'est transformée en poivrière. Non, en salière, hein, il me semble. Ah oui, j'ai oublié. C'était en salière. C'est ce que le poivre, ça fait éternuer. Mais, voilà, elle n'avait pas appris à obéir, tout simplement. Et vous savez, quand Dieu nous demande d'obéir, c'est pas pour faire plaisir aux hommes. C'est pas pour dire, je vais être bien avec le pasteur, ou je vais être bien avec les anciens, ou ceci et cela. C'est pas ça. Là, on n'a rien compris, hein. C'est simplement parce que Dieu veut nous préserver de dangers qui nous menacent, et notre entêtement, et quelquefois, lorsque nous raidissons le coup, eh bien, nous allons à la catastrophe. Et vous savez qu'il y a une parole qui nous dit ceci dans les psaumes, me semble-t-il, que celui qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé sans délai, il me semble, hein. Immédiatement, subitement, je crois, c'est le mot. Alors c'est pour ça qu'on a plutôt intérêt d'écouter le Seigneur, parce que la femme de Lot qui avait été prévue ne te retourne pas, et elle se retourne. Et voilà la situation. Il y a là un enseignement solennel qui est donné par l'exemple de la femme de Lot. Être en route pour le salut, parce qu'elle était quand même en route pour aller se réfugier, pour être sauvée, et perdre aussi stupidement le bénéfice de la grâce par nostalgie du passé. Ah oui, elle a regardé derrière. Elle s'est dit, ma belle maison. Et puis, mes amis. Et puis, j'ai laissé mes bijoux là-bas. J'ai pas le temps de prendre tout parce que ça commence à brûler, hein. Et j'ai laissé mes gendres. Elle devait aimer ses gendres. Je ne sais pas si les gendres aimaient. Enfin bon, peu importe, mais toujours est-il qu'elle regarde derrière. Et là, à ce moment-là, eh bien, le fait de regarder derrière, c'est le regard vers le passé. Vous savez, le Seigneur nous a appelés à ne plus regarder derrière nous. Notre vie, qu'elle soit belle ou qu'elle soit mauvaise, nos souffrances et nos peines, et puis nos albums photos, le Seigneur nous demande maintenant, et Paul le dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers ce qui est en avant. Et à partir du moment où on a bien compris ça, alors à ce moment-là, on est sur le chemin du salut. On va bientôt monter sur la montagne pour rejoindre le Seigneur, pour être sauvé. C'est peut-être la nostalgie des choses de notre vie, c'est peut-être aussi la conservation secrète d'une idole que nous ne voulons pas lâcher à aucun prix. Vous vous souvenez de l'histoire de Rachel avec ses téraphins qu'elle avait mis dans sa robe, et puis que son père a dit, qui a pris mes téraphins? Qui a volé mes téraphins? Il ne savait pas que c'était sa fille. C'était Jacob, non? C'était Laban. Oui, je mélange. Jacob, c'était son mari. Voilà, c'était Laban. Et il était furieux, Laban, hein. C'était entre un drôle de personnage aussi, hein. Très, très atypique. Et il a dit, quelqu'un a volé mes téraphins. Et On a fait fouiller tout le monde, les chameaux, les ânes et tout ça, et tout le monde a été fouillé. Elle n'avait pas voulu se lever parce qu'elle avait des petits problèmes, et elle avait caché tout cela sous sa robe. Et à ce moment-là, Laban, c'est Jacob qui a dit, « Eh bien, si quelqu'un a volé tes téraphins, qu'il soit maudit. » Terrible une parole comme ça. C'est qu'effectivement, son propre mari, la femme qu'il aimait, sa belle Rachel, il a prononcé une parole de jugement téméraire, et elle n'est pas rentrée dans le pays de la promesse. Elle est morte en couche. Ça vous surprend? Vous avez lu le texte, hein? Terrible, elle avait voulu garder une idole au fond de son cœur. L'amour du monde, l'idolâtrie du monde finit toujours en malédiction. Et c'est pourquoi Jean nous dit ceci, n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Lot nous laisse le témoignage, l'image d'un croyant mal affermi, d'un enfant de Dieu sans maturité spirituelle, en proie à toutes les sollicitations qui sont exercées sur lui par le monde. Jean termine son épître par ces paroles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors l'idole, ça revêt un caractère particulier pour nous aujourd'hui, c'est peut-être autre chose. Et nous avons besoin de tenir compte certainement de tout cela. Le danger est réel, frères et sœurs. Et c'est vrai que nous sommes soumis et nous vivons dans un monde qui est très imprécis sur nos vies, qui nous broie. Alors que Dieu nous donne sa grâce, le meilleur moyen pour y échapper, eh bien, c'est véritablement d'être rempli du Saint-Esprit. Être renouvelé dans notre intelligence, être renouvelé dans notre cœur, dans nos sentiments, et de dire « Seigneur, prends toute la place ». C'est notre combat permanent. Les uns et les autres. Il n'y a pas d'autre chose. Alors nous avons ce combat. Mais ce combat, le Seigneur l'a remporté quand il est dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors si le Seigneur l'a dit, c'est que nous pouvons y arriver avec sa grâce et que Dieu remplisse nos cœurs de foi pour lui faire comprendre, pour nous le faire comprendre, que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et te remercier pour ta parole, parce que elle est, en effet, Seigneur, toujours d'actualité. Ces vieilles histoires de la Bible sont des histoires d'aujourd'hui, sont des histoires d'une réalité, d'un réalisme, Seigneur, époustouflant, étonnant, Seigneur, merveilleusement actuel. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, je veux te demander, Père éternel, que tu aides ton peuple, que tu nous aides les uns et les autres, que tu m'aides moi-même, Seigneur. En effet, Père éternel, à prendre des forces spirituelles. Quand tu nous dis aspirer aux choses d'en haut, et non pas à celles qui sont sur la terre, c'est qu'il y a une bonne raison. Parce que, Seigneur, nous sommes naturellement aspirés vers le bas. C'est le phénomène certainement de la pesanteur. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous avons besoin de nous d'aspirer à aller vers le haut. Et c'est vrai, Seigneur, quand tu nous as pris, tu ne nous as pas pris, Seigneur, parce que nous étions déjà des saints ou des super-saints. Tu nous as pris comme Abraham, comme Lot, comme David, comme Jacob, comme les uns et les autres que nous voyons défiler dans les pages de la Bible. Et tu nous as pris pour que nous deux soyons transformés et que nous soyons renouvelés, Seigneur, pour devenir des saints. Alors nous voulons te rendre grâce et te remercier. Je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs qui sont en bataille permanente, afin qu'ils ne se découragent pas. Parce que ce qui leur a été dit ce matin, ce que tu as bien voulu leur montrer encore, c'est qu'il y en a d'autres qui sont passés par là. Et puis il y a eu des vainqueurs. Abraham était un vainqueur. Et tu nous avertis aussi, Seigneur, que si nous voulons, eh bien, Seigneur, ne pas engager notre énergie, nos forces et puis notre volonté, alors nous pouvons finir comme Lot. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous viennes en aide. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu connais la nature du monde dans lequel nous sommes. Tu connais, Père éternel, les pressions, les tentations, Seigneur, tout ce qui peut s'exercer sur notre vie. Je te prie particulièrement pour nos enfants de nos familles, les adolescents, les jeunes gens, les jeunes filles, nos petits-enfants également, qui sont aussi soumis à toute cette pression de ce contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, je veux te demander, Père, qu'ils puissent véritablement comprendre que c'est maintenant qu'ils doivent choisir. Et qu'ainsi, Seigneur, eh bien, s'ils laissent de la place à Dieu, eh bien, cette place grandira de plus en plus. Mais si véritablement ils évacuent la pensée du Seigneur, alors à ce moment-là, il y aura une autre pensée, il y aura une autre occupation. Il y aura même un encombrement dans leur cœur. Et celui-là, eh bien, c'est pas ce que tu veux. Révèle-toi et manifeste-toi. Bénis ton peuple. Visite-nous, Seigneur. Et surtout, donne-nous d'être obéissants. Oui, lorsque nous sommes informés, lorsque nous sommes avertis, donne-nous de ne pas aller au-delà, de ne pas forcer les portes. Parce qu'à ce moment-là, Seigneur, nous croyons que, comme la femme de Lot, eh bien, nous pouvons nous arrêter net et être pétrifiés même en étant sur le chemin du salut. Révèle-toi et manifeste-toi. Et pourtant, tu as voulu sauver Lot. Et tu l'as sauvé quand même. Mais une chose qui est certaine, c'est que tu veux que nous soyons et que nous t'appartenions totalement de tout notre cœur. Béni soit ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Amen.